Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage sur Radio Judaïca 90, FM 90.2. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'Iran, mais à mes côtés, Josy Dubié, que les auditeurs de notre radio connaissent déjà très bien, n'est-ce pas, bouillant sénateur écolo, qui est actuellement... comment dire, en disponibilité politique, on peut dire, ah bon, Josy.
Toujours sénateur.
Et à part ça,
ça suffit, à bon bonheur.
Ça vous remplit, voilà, ça remplit votre agenda.
Je suis aussi député communautaire et député régional bruxellois, ce qui veut dire que ça fait trois fonctions à remplir et c'est pas...
Voilà.
Si vous voulez ajouter une chose, il est un ami d'Iran aussi.
Un ami de l'Iran.
De l'Iran.
Oui. Ah ben, de quel Iran alors, hein, on va en parler. Hein.
Des Iraniens.
L'éternel Iran. Alors, à nos côtés aussi, Firouzena Avandi, qui est déjà venue aussi à cette émission, directrice de l'Institut de sociologie et auteur d'un livre dont nous avons parlé d'ailleurs et nous y reviendrons, qui s'appelle « Du développement à la globalisation », paru aux éditions Brulant. Et avec nous aussi, Anouar Mirsakhtari, qui est déjà venu et qui nous parlera de la lutte que mènent aujourd'hui les sans-papiers iraniens réfugiés dans l'Église. Voilà, alors chers amis, bon, l'Iran maintenant, pas un jour qui passe sans qu'on en parle. L'Iran nous surprend, l'Iran nous inquiète. Défilé de forces militaires, imprécation contre l'État sioniste, petit Satan, allié du grand Satan, l'Amérique. Négation de la réalité historique de la Shoah. En réponse aux caricatures danoises, qu'il définit comme un complot sioniste, bien entendu, Ahmadinejad propose un concours international de caricatures sur la Shoah. Alors que tous les États démocratiques tirent un cordon sanitaire autour du Hamas, Téhéran lui offre 50 millions de dollars. Mais surtout, il joue sur les nerfs de l'agence interatomique du Conseil de sécurité de l'ONU en affichant ses ambitions nucléaires et en menaçant de se retirer du traité de non-prolifération. Précisons que ces fausses fulgurations sont surtout le fait d'un seul homme qui est donc le président Ahmadinejad. Alors, ce qu'on voudrait évidemment comprendre, c'est quel est son pouvoir et donc sa capacité de nuisance. Et en fait, d'abord, quels sont les niveaux, les différents niveaux de pouvoir en Iran entre les gardiens, le Conseil des gardiens de la Révolution, les Mollahs et les différentes instances gouvernementales. Firouzeh Nahavandi, vous allez nous éclairer.
Écoutez, c'est justement la chose la plus compliquée pour des négociations avec l'Iran, c'est que les centres de pouvoir sont multiples. Ceci dit, la hiérarchie est assez simple. Tout en haut de la hiérarchie, il y a le guide de la Révolution, qui est Khamenei, et qui n'est pas choisi par le peuple, mais par le clergé. Il y a ensuite un président de la République qui est, lui, élu au suffrage universel. Et puis, entre le président et le guide, il y a toute une série de conseils de surveillance des bonnes règles de la République islamique et de la conformité de ces règles avec l'islam, ce qui veut dire que, effectivement, le rôle du président en soi, théoriquement, n'est pas très important parce que toutes ces décisions peuvent être renversées par les différents conseils et en tout cas contrées aussi par le guide qui est
Ali Khamenei actuellement.
C'est ça. En théorie, c'est comme cela.
Mm-hmm. Et est-ce que ces différents niveaux de pouvoir s'opposent, exercent des rivalités les uns contre les autres?
C'est une des caractéristiques de la République islamique, c'est que tous les niveaux de pouvoir s'opposent sur l'un ou l'autre problème, tout en étant parfois d'accord sur des problèmes essentiels ou des questions essentielles. Mais ceci dit, comme il y a différentes personnalités fortes, effectivement, l'un ou l'autre peut contrer. Ahmadinejad, président, est quand même au départ le candidat plutôt soutenu par le guide de Khamenei. Ceci dit, à partir du moment où il a été élu, il a commencé à vouloir faire cavalier seul et essayer de jeter l'ombre un tout petit peu sur Khamenei et prendre les choses en main pour lui tout seul.
Donc le but, en fait, c'est d'occuper la scène, quoi.
En ce qui concerne Ahmadinejad...
Pour se rendre plus populaire et acquérir plus de pouvoir par la suite.
Il a certainement voulu prendre plus de pouvoir pour le président et de cette manière probablement ainsi peut réaffirmer sa pensée qui est celle de Khomeini qui avait été un petit peu oubliée ces dernières années.
Est-ce qu'il faut avoir peur de lui ? Que ce pouvoir se développe justement ?
On peut avoir peur de lui parce qu'il est imprévisible et qu'on ne sait pas à quel moment il va réagir et comment il va réagir. Ceci dit, on a vu que ses mouvements étaient souvent très maladroits et que donc il heurte la communauté internationale. Ceci dit, à l'intérieur, il y a quand même une partie de la population qui le soutient, mais surtout à l'intérieur,
15% par exemple.
Oui, une partie
au maximum.
C'est pas très important puisque les votes n'ont pas été. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de votes de manière générale aux élections. Ceci dit, il est soutenu par toutes les milices islamiques puisque c'est vraiment le candidat de ces milices.
Et religieuses.
Religieuses et non, mais en tout cas celles qui sont parallèles à tout le pouvoir de l'armée.
Vous dites que c'est un personnage imprévisible, pourtant gouverner c'est prévoir, dit-on. Est-ce que c'est le pouvoir qui l'a rendu imprévisible ou enfin un peu fou, disons?
Il n'a pas été depuis si longtemps au pouvoir pour que le.
Il est quand même devenu maire de Téhéran.
Oui, mais bon,
je avec un score complètement ridicule.
En tant que président.
Non, comme il est devenu maire de Téhéran, oui. Il faut savoir qu'il a été élu, c'était une grande surprise pour les Iraniens aussi. C'était un homme qui arrivait pratiquement de nulle part. Et je voudrais dire qu'il me semble quand même que, malgré qu'il dit des choses absolument invraisemblables, on le laisse faire. Je rappelle que l'ancien président, le président Khatami, qui était un président qui voulait faire des réformes, il a été contré systématiquement par les instances dont parle madame, à savoir le conseil de discernement, etc. Et que dès lors, sa politique de réforme a été systématiquement contrée par les autres instances. Ce n'est pas le cas avec Ahmadinejad jusqu'à présent. Donc on peut dire qu'on le laisse faire. Et c'est ça qui me semble extrêmement inquiétant. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a plus de cohérence dans le système entre toutes ces instances qu'il y en avait dans le passé, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il y a eu si peu de gens qui ont été votés. Ils avaient mis leurs espoirs, les réformistes, en Khatami, et ils ont vu que ça ne débouchait sur rien. Ils se sont dit que ça ne sert à rien d'aller voter. Et donc le président actuel a été voté avec un score complètement ridicule au niveau des voix de gens qui se sont présentés aux élections. Mais cela dit, il joue sur la fibre nationaliste, et je peux vous dire, pour avoir été quelques fois en Iran, le nationalisme iranien, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est fort, très, très fort. Le nationalisme est fort, mais je crois que ce qui se passe dans ce cas-ci, c'est que ses positions reflétant justement le nationalisme, il a induit une sorte de surenchère, c'est-à-dire qu'effectivement, différents pouvoirs, différents hommes qui ont le pouvoir aujourd'hui, n'arrivent pas à publiquement contrer ou contredire Ahmadinejad. Donc ils sont obligés d'en remettre ou de le soutenir dans
le même sens.
Oui, il y a une surenchère.
Est-ce qu'il a aussi, lui ou ses hommes, n'ont-ils pas la main mise sur les organes de diffusion, la presse, etc.
Ah, bien sûr, il n'y a pas de liberté.
Anouar Mirsartari, vous vouliez intervenir.
Ce que je voulais ajouter, Dr Nahovendi vient de bien expliquer la hiérarchie en Iran. Il faut faire attention que c'est un système. Et M. Ahmadinejad, il joue dans le système, il ne peut pas sortir de cadre. C'est la même idée de Khomeini, comme il vient de dire, c'était oublié, maintenant ils ont compris. Et à la fin, toujours c'est Khomeini qui décide. Donc Ahmadinejad, il n'a pas de nouveauté, et il ne dit pas au contraire de M. Khomeini. Une fois il a décidé, par exemple, pour faire démagogie, par exemple, autoriser les femmes pour rentrer dans les stades de foot. Parce que jusqu'à maintenant, pour les femmes, c'est interdit. Mais tout de suite, les ayatollahs, à la fin, Khamenei a décidé, il a dit non, il ne peut pas faire. Ahmadinejad était obligé de reculer. Si on parle aujourd'hui de l'histoire de nucléaire, aux droits de l'homme et tout, c'est pas actuel, ça date de long temps, donc Ahmadinejad n'a pas pris l'histoire de nouveauté, ce que je voulais dire. C'est un système, vous avez demandé si Ahmadinejad est dangereux ou non, c'est tous les systèmes qui sont dangereux pour les droits de l'homme, pour la paix du monde, ce que je voulais ajouter.
Mais rappeler l'héritage de Khomeini, c'est évidemment une manière, j'imagine, de se donner des lettres de noblesse. Est-ce que c'était nécessaire?
Oui.
Si vous permettez, je pense qu'on peut dire que, comme Khomeini l'était, L'actuel président est le président de ce qu'on appelle là-bas les Mostazafines, les pauvres, les déshérités. Et c'est clair que c'est eux qui ont fait la révolution, qui ont chassé le char. Les centaines de milliers de personnes qui ont risqué leur vie, dont beaucoup d'ailleurs ont été tuées, des milliers ont été tuées, l'ont fait. C'était les pauvres de Téhéran, je les ai vus, d'ailleurs j'étais là-bas, je les ai filmés à l'époque, qui sont sortis et qui ont défié la garde impériale du Shah et qui ont renversé le régime. Et ces gens-là ont mis leur espoir dans le régime. Or, il faut bien reconnaître qu'ils n'ont pas été fort aidés. Et donc aujourd'hui, et c'est eux qui soutiennent le plus fort l'actuel président, parce qu'il revient à ce que Khomeini avait dit à l'époque, je suis le président, enfin il voulait faire promouvoir les pauvres.
De charité, de chasteté.
Ce n'est pas de la charité, il se basait sur les pauvres, les mostazafines, les plus déshérités.
Mais vous dites que leur... Vous êtes d'accord que la situation du peuple iranien pauvre ne s'est pas améliorée entre Khomeini et maintenant?
Il y a une...
Parce alors, ils ont les chassés très démagogiques. Le niveau de la pauvreté en Iran a augmenté. Les inégalités ont augmenté, et donc les pauvres dont parle José Dubié, ils ont augmenté, et la population qui a augmenté, ce qui fait que on est dans une situation économique catastrophique, extrêmement inégalitaire, avec un pays extrêmement corrompu. Et donc le discours démagogique d'Ahmadinejad par rapport à ce qu'il allait faire, et vraiment ce sont des propos très très basiques, a eu effectivement un succès.
C'est ce que vous faites. Oui. Anouar, vous voulez ajouter quelque chose?
Le programme de campagne électorale présidentielle de M. Ahmadinejad était la pauvreté et le peuple iranien. Malgré tout, les Iraniens, ils n'ont pas fait confiance à Ahmadinejad ni à Rafsanjani. La majorité des gens avaient boycotté l'élection. Uniquement, il a été choisi par les leaders, par le guide, par Khamenei. Donc les gens, ils n'ont pas voté en masse pour lui, mais il a donné beaucoup de promesses. Les gens, ils ne le croyaient pas. Uniquement les milices, comme José vient de dire, les milices et le service pastoral, les Basiges, qu'ils étaient dans le même parti que M. Ahmadinejad, ils ont voté pour lui, ils ont fait le propagande pour lui. Et depuis qu'il est là, comme Dr. Narvani vient de dire, il fait la démagogie et tout. Par exemple, je ne sais pas, il voyage beaucoup en Iran, et il donne beaucoup de promesses, mais en pratique, il n'y a rien qui passe.
Parce qu'il n'a pas de pouvoir ou parce qu'il s'en fout?
Premièrement, il n'a pas de pouvoir. Deuxièmement, il faut avoir un plan. Le régime islamique
n'a pas d'un projet
pour aider aux gens. D'abord, il faut avoir un plan démocratique pour ces pays. Notre pays souffre de, comment dire,
d'un déficit démocratique.
Voilà. Donc, si quelqu'un veut aider au peuple iranien, d'abord, il doit libérer les droits d'expression, les journaux, et libérer les prisonniers. Sinon, personne ne pourra aider au peuple iranien. Et maintenant, ils dépensent notre budget pour l'énergie nucléaire, et on va parler de ce sujet. Au lieu d'aider aux gens, au lieu de développer...
Les grands problèmes de la société iranienne en matière économique.
Mais c'est-à-dire que ce pays est un pays, effectivement, où la pauvreté sévit, où la seule et unique source de revenus reste encore le pétrole, et que c'est ce pétrole qui est en train d'être l'argent de ce pétrole qui est en train d'être redistribué parmi une toute petite couche de la population. C'est un état rentier, il n'y a aucune base économique à part ce qui tourne autour du pétrole. Et donc, pas de travail, pas de possibilité.
Beaucoup de chômage, on connaît le pourcentage de taux de chômage?
Il tournerait autour de 30-40%, ouais. En tout cas chez les jeunes, certainement, autour de 40%. Ouais. Et n'oublions pas que la population est une population à 60%.
De jeunes de moins de 25 ans.
De moins de 25 ans, certainement. Et donc, c'est un pays qui doit répondre à une demande en matière d'éducation, de travail, etc. Et ce régime est incapable de le faire.
Il faut ajouter aussi le problème de drogue et la prostitution, qui sont augmentées en Iran actuellement, malgré le slogan idéologique qu'ils donnaient. Ils disaient il faut, je ne sais pas, tuer ou supprimer toutes les prostitutions, mais apparemment j'étais...
Et la culture du pavot, toujours répandu?
C'est à cause de pauvreté, toujours.
À cause de pauvreté. La drogue, la pauvreté, la vente des enfants, la prostitution sont vraiment des fléaux d'une sorte de culture de la pauvreté, si j'ose dire.
Moi quand je pense à Ahmadinejad, je pense à monsieur, excusez-moi de dire monsieur, je pense à Hitler qui est au début, il est venu avec nationalisme, socialisme.
Et un progrès social et un programme social, oui.
Voilà, ce qu'il y a dit, Ahmadinejad, il fait, c'est pas un vrai programme social uniquement pour démagogie et pour sauver le régime islamique qui est anti-humain.
Il y a un déficit considérable au niveau des investissements aussi, notamment dans les investissements en matière pétrolière. Par exemple, c'est vrai que l'Iran est un grand pays producteur de pétrole, mais de brut, ils ont un déficit considérable en matière de produits raffinés, par exemple. Donc ça veut dire que s'ils faisaient un blocus sur leur brut, eh bien, on pourrait faire un blocus sur le raffiné, ils ne pourraient plus rouler en voiture. Parce qu'avec du brut, vous ne roulez pas en voiture. Donc vous voyez, même dans ce domaine-là, qui est le seul domaine où ils pourraient quelque part exceller, eh bien, même dans ce domaine-là, ils ont un déficit d'investissement considérable.
Oui, on arrête l'exportation de pétrole raffiné, l'essence, les avions, c'est terminé, les voyages des dirigeants, c'est terminé.
Ils sont encore suffisants en produits raffinés.
On est sur ce pays étranger, notre essence, malheureusement.
Alors que c'est un des plus grands producteurs de brut du monde.
Et il n'y aura pas quelqu'un qui viendra les sauver, trop heureux de bénéficier de leur brut, comme la Chine ou la Russie.
Ils ne sont pas non plus à même de fournir l'Iran, hein. Surtout pas la Chine en tout cas pour le moment.
Ils sont consommateurs et pas appliqués.
Et la Russie,
La Russie pourrait éventuellement le faire. Ça, c'est tout le débat qu'on va peut-être avoir sur ce qui va se passer concernant les sanctions économiques éventuelles. Pour autant que, effectivement, les cinq membres du permanent du Conseil de sécurité se mettent d'accord. On est encore loin.
On va venir à ce sujet, justement. Est-ce que sur le thème, justement, du pouvoir d'Ahmadinejad, on a. Épuisé pour l'instant les thèmes. Donc en fait, en conclusion,
pour le moment.
Conclusion à Noir, c'est un nouvel Hitler et il faut se méfier de lui. La pauvreté, programme sur lequel il a été élu, ne fait qu'augmenter. La jeunesse qui représente plus de 60% du pays, en tout cas pour les moins de 25 ans, est sans travail.
Les militants de droits de l'homme sont plus en plus en prison, les journaux sont plus fermés. Donc,
les libertés sont réprimées.
Ce n'est pas Ahmadinejad, c'est le système qui est dès le départ.
Mais il n'est pas
Ahmadinejad.
Est-ce que Khatami, lui, n'inversait pas un peu la vapeur? Puisque vous avez dit tout à l'heure, voilà, il renoue en fait avec la tradition communiste qui, lui, prônait toute une série de.
Khatami a essayé,
Est-ce qu'il a été saboté ou est-ce qu'il est ouvert? Ceci dit, il n'a jamais remis en cause la théocratie.
Non, jamais.
Donc, il n'a pas remis en cause le système. Il a essayé de le réformer.
Il y avait quand même un vent de liberté qui a commencé à.
Les réformes sont restées souvent au niveau de la parole. C'est pour ça que la population qui a voté pour lui a été déçue. Il y a eu beaucoup d'affirmations et très peu de réalisations à ce niveau.
Bien, si on abordait maintenant la question nucléaire, Ahmadinejad assène, l'Iran ne reculera pas d'un iota. Le président iranien choisit la provocation, il joue sur les nerfs du monde, il menace la paix internationale et avec quels arguments? Un peuple de Dieu ne crée aucune puissance car il s'appuie sur Allah. C'est ce qu'il déclare. Le 29 mars, le Conseil de sécurité a donné raison à l'Iran pour suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium. Mais le Conseil de sécurité s'est évidemment réuni et il n'a pas pu se mettre d'accord sur les mesures à prendre. Certains considèrent que c'est injuste de refuser à l'Iran l'arme nucléaire, arguant que les Perses n'ont jamais attaqué personne. Bon, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, hein, bon, sans remonter à Darius, on sait qu'il y a eu des périodes où les Perses ont pu se montrer belliqueux. Et en plus, le passé ne peut évidemment pas nous garantir pour l'avenir. Mais est-ce que vous, Josy Dubié, vous considérez que c'est une injustice que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire?
Écoutez, pour moi, évidemment, c'est clair qu'Ahmadinejad est un provocateur, mais je crois comprendre que son discours passe dans l'opinion publique iranienne, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont victimes d'une forme d'injustice. Et je pense que, je vais vous étonner, pour moi, la solution passe dans une sorte de désarmement nucléaire total de l'ensemble de la région. Pourquoi? Quel est l'argument, finalement, principal qui est avancé par le président iranien? C'est de dire... D'autres l'ont, et Israël en particulier, c'est un secret de polichinelle, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas le droit de l'avoir? Donc vouloir empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, sans donner On sent au moins mettre sur la table le fait que le désarmement nucléaire devrait être total dans toute la région, et y compris, et je l'espère vraiment, en Iran et au Pakistan, parce que là, c'est quand même, il y a un conflit potentiel au Cachemire, où j'étais encore récemment, qui n'est pas résolu. Et voilà, deux puissances qui pourraient se faire une guerre, qui pourrait devenir une guerre nucléaire. Donc il y a un danger potentiel sur l'ensemble de la planète qui est localisé dans cette région. Je pense que la solution, c'est de trouver un désarmement nucléaire total.
Oui, mais enfin, il faut quand même préciser que d'abord, Israël n'a jamais menacé personne, et qu'ensuite, les différentes puissances de la région qui ont acquis l'arme nucléaire l'ont fait quand même avec beaucoup de discrétion. L'Inde, je crois que c'était en septembre, le Pakistan en 96, ils ne l'ont pas clamé sur les toits, ils n'ont pas fanfaronné et ils n'ont pas dit qu'ils allaient s'en servir. Ils avaient quand même, ils avaient adopté une culture de la dissuasion qu'apparemment l'Iran ne connaît pas.
Ça ne me rassure pas du tout, hein. C'est parce que on le fait de manière discrète que c'est moins dangereux. Le danger,
le faire pour se prémunir contre une attaque, c'est quand même pas le même esprit que de le faire en disant j'attaque. Mais on n'a pas encore prouvé, pas tout à la fois, parce que les auditeurs vont rien comprendre.
Je crois que bon, effectivement, l'Iran proclame son droit souverain à avoir l'énergie nucléaire, ce qui me semble légitime en ce qui concerne l'énergie nucléaire.
Sur le plan du principe.
Sur le plan du principe pacifique, oui. Ceci dit...
Vous voulez parler de l'énergie civile, là, en fait.
Par ailleurs, je soutiens ce qui vient d'être dit. L'Iran ne voit pas vraiment pourquoi ce pays qui se veut puissant, veut jouer un rôle dans la région, n'aurait pas ce que ses voisins ont et que donc se trouverait dans une situation défavorable. Et le fait qu'on l'interdise et qu'on fasse toutes sortes de déclarations et de contrôles là-dessus augmente le sentiment d'injustice et de frustration qui est toujours décimé parmi la population. Donc c'est le deux poids, deux mesures. Et je suis d'accord, la solution ce serait de démilitariser de toute la région.
Donner la parole à Noir, je voulais dire, il y a peut-être une bonne raison pour qu'ils n'aient pas d'armes nucléaires. Par rapport à ce que vous disiez avant, c'est qu'il y a d'autres priorités normalement pour l'Iran qui devraient être à l'ordre du jour, et notamment les priorités économiques.
Ce sont des choses internes. C'est trop tard.
Ça coûte encore cher.
Il faut être Anouar, vous voulez intervenir. Oui.
Moi, je voulais dire, énergie nucléaire maintenant, c'est actualité l'Iran pour tout le peuple iranien, 70 millions, c'est très important. C'est une question que tout le monde discute, même on se déchire. Même les gens qui sont dans l'opposition. Moi, j'ai dit...
Anouar, vous voulez dire que même les gens dans l'opposition trouvent qu'il faut se battre pour l'opérer.
Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux cas différents. Soit, comme les régimes iraniens déclarent, nous voulons uniquement énergie nucléaire civile pour la technologie. Pour moi, il y a problème. Parce que l'Iran est deuxième pays gaz naturel en Iran. Nous sommes quatrième pays d'exportateurs de pétrole. Nous avons la moitié du pays, nous avons énergie solaire. Nous avons énergie éolienne. Nous avons les barrages, très barrages qui sont construits à l'époque de l'ancien régime d'Iran. Nous avons plein d'énergie, plein de sources. Nous n'avons pas besoin d'énergie nucléaire. La Belgique, après 25 ans ou dans quelques années, ils vont fermer leur centre énergie nucléaire. Pourquoi maintenant on doit l'avoir? Nous n'avons aucun intérêt. Ce n'est pas rentable pour le peuple iranien d'avoir énergie nucléaire. Imaginons que le régime est sincère, il veut avoir énergie nucléaire. Moi, en tant qu'un Iranien, je pense à l'intérêt national, en tant qu'un écologiste, je ne suis pas d'accord avec l'énergie nucléaire pour l'Iran. Nous avons beaucoup de sources et nous pouvons avoir d'autres sources durables et renouvelables pour ce pays. Ça, c'est le premier cas. Et le régime iranien, les Iraniens, ils disent que c'est notre droit. C'est notre droit, nous pouvons avoir l'énergie nucléaire. Moi, j'ai dit aussi avec ces gens, c'est notre droit, c'est le peuple iranien qui doit décider pour avoir énergie nucléaire ou pas. C'est pas les autres pays. Mais en tant qu'un Iranien, il n'y a pas de démocratie actuellement en Iran pour faire un référendum, pour décider si nous voulons énergie nucléaire ou pas. Il y avait jamais.
Donc il faut d'abord un débat démocratique sur cette question-là en Iran.
D'abord, il faut respecter le droit de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de presse pour discuter à la télé, dans le Parlement. Même le Parlement n'est pas au courant du budget de notre énergie nucléaire. Si c'est une industrie, c'est une usine pour énergie nucléaire comme les autres, comme l'usine de biscuits ou je ne sais pas, la voiture, ça doit être ouvert pour tout le monde. Les étudiants iraniens doivent avoir le droit de visiter cette usine. Mais pourquoi en cacher? Qu'est-ce qu'on a pour cacher dans une usine énergie nucléaire pour produire une énergie? Donc, vous voyez que le premier cas, c'est pas le cas. Le régime iranien, je pense qu'il y a quelque chose à cacher au peuple iranien, mais il joue avec le peuple iranien.
Qu'est-ce qu'il a à cacher?
Attendez, parce qu'il dit que c'est comme nationalisation de pétrole en Iran à l'époque de Dr. Mossadegh. Mais c'est pas vrai. S'ils sont sincères, s'ils croient Dr. Mossadegh, il y a pas même une petite rue au nom de Dr. Mossadegh en Iran. On arrête les partisans, sympathisants de Mossadegh actuellement en Iran. Donc c'est pas vrai. Ils jouent uniquement le régime iranien était isolé. Ahmadinejad, c'est quelqu'un que les régimes...
Est-ce que c'est pas une manière?
C'est une manière... oui, c'est fini. C'était une manière pour Ahmadinejad pour se sauver. Comme Khomeini, à l'époque de la guerre Iran-Irak, il a dit que c'est une guerre sainte.
Mm-hmm. Mais c'est donc une en fait, c'est une manière de détourner l'attention du peuple de sur une problématique
bien sûr, parce que le peuple iranien
extérieure à ses propres problèmes.
C'est un intérêt national, mais c'est pas vrai. Il n'a pas aucun intérêt. L'Europe, il est en train de fermer ses centres nucléaires, mais on est en train de construire.
Oui, et je pense qu'on...
Je voulais ajouter deux mots, si vous voulez, parce que le régime iranien, maintenant, il est fier d'avoir énergie nucléaire. Mais nous avons besoin de... il parle d'enrichissement de, comment dit, l'uranium. Comme j'ai dit l'autre fois, l'Iran a besoin d'enrichissement de la démocratie en Iran, et c'est tout.
Mais Anvar, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis me convient. Le problème, c'est que je pense que ça marche auprès de la majorité des Iraniens. Ils sont convaincus par ce discours nationaliste et ultranationaliste. Nous y avons droit. Et donc, le régime qui, on l'a rappelé, a été élu avec une très faible participation électorale, aujourd'hui a un soutien populaire important, même dans des couches de gens qui sont opposés au régime sur ce point-là. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, je trouve.
Oui, tu as raison. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'occasion pour les gens pacifistes et antinucléaires pour s'exprimer. S'exprimer. Monsieur Jahan Beglou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce n'est pas une bonne chose pour l'Iran. On l'a arrêté. Il est en prison. Est-ce qu'il y a moyen pour les gens pacifistes en Iran pour s'exprimer?
Non, il n'y en a pas.
Donc, c'est pour ça, c'est sens unique, c'est une autre sens unique. 24 heures sur 24, le régime iranien il fait propagande. Nous avons besoin de ça, notre technologie a besoin de ça. C'est pas vrai, il y a d'autres sources d'énergie. Mais quand le régime il dit pour l'hôpital, pour la médecine, pour toutes les technologies, pour avancer, pour renverser le système iranien, techniquement, nous avons besoin de cette technologie. Donc, tout le peuple, ils disent pourquoi pas. Comme tu viens de dire, par exemple, on dit Israël, il en a, ou cette deuxième phase, que quand on parle de bombes atomiques, ils disent pourquoi Pakistan, Israël, ou Inde, ou les Américains, ils doivent l'avoir, et pourquoi pas nous. Mais ce que je voulais dire, en tant que pacifiste, je dis, les Américains, d'abord, ils n'ont rien à dire dedans, parce que les Américains, ils ne respectent pas le protocole Kyoto, ils ont l'énergie nucléaire, ils ont bombes atomiques, ils ne respectent pas les droits internationaux. Comment il peut donner, M. Bush, comment il veut donner une leçon à Ahmadinejad au peuple iranien? Aujourd'hui, moi je demande, en tant qu'un pacifiste iranien, ou tous les écologistes du monde, d'essayer de lutter, de supprimer ces catastrophes mondiales dans le monde entier, pas uniquement en Iran. Donc on doit supprimer partout une bombe atomique.
On va faire une petite pause musicale et on va continuer le sujet de la question nucléaire iranienne qui est loin d'être épuisée.
J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent, par du sort. Regarde et danser les gens. J'adore, j'adore.
dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son.
Voilà, chers amis, vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage au micro Sarah Brébard, l'émission produite par le collectif Dialogue et Partage sur Radio Juive Laïka 90.2 FM. À mes côtés, pour parler de l'Iran, sujet à la mode, Firouzena Avandi, qui est directrice de l'Institut de sociologie de l'ULB, Josy Dubié, qui est sénateur écolo, député régional bruxellois, et Anouar Mirsartari, qui anime d'ailleurs pour le moment le collectif des sans-papiers iraniens. Alors, si vous êtes à l'écoute depuis un moment, vous aurez constaté qu'on essaye de comprendre pourquoi l'Iran veut la bombe, est-ce qu'il a le droit de l'avoir, et si lui n'y a pas droit, pourquoi les autres, eux, y ont droit, et jusqu'où peut-on lui faire confiance, évidemment. Et à partir du moment où on considère qu'il ne pourrait pas l'avoir, quelles sont les mesures de rétorsion que nous avons vis-à-vis de l'Iran et aussi quelles sont les mesures de rétorsion que l'Iran a vis-à-vis de nous, parce que semble-t-il, d'après un site stratégique qui s'appelle rmes.be, je vous le recommande, et qui est animé notamment par des chercheurs belges, Joseph Enrotin me signale que l'Iran dispose d'une fusée sous-marine de 360 km/h. Alors ça a une importance parce que si attaque il y a de la part des Américains, elle ne pourrait avoir lieu que par mer et pas par terre. Ben, par contre, les Iraniens pourraient très bien bloquer le détroit d'Ormuz, notamment la petite partie qui est face au golfe d'Oman, et en couper comme ça la route au pétrolier de l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs ce qui mettrait évidemment en danger l'approvisionnement en pétrole de l'Europe. Mais c'est d'ailleurs pour ça que la hausse du pétrole actuellement est si sensible, parce que l'assurance Lloyd a augmenté considérablement ses assurances qui protègent, qui sécurisent les bâtiments pétroliers à fond de mer. Voilà, vous vouliez intervenir, Josy.
Mais oui, vous avez, je crois, bien posé la question, mais on se trouve effectivement devant un dilemme. Je vais vous dire que c'est clair que la perspective que l'Iran ait un jour la bombe atomique, et apparemment ça pourrait se faire dans une période que des experts considèrent entre 4 et 10 ans, me fait peur, soyons clairs. La bombe atomique dans les mains d'un régime pareil est inquiétante. La question qui se pose dès lors, moi je dis, la solution idéale serait évidemment le désarmement de l'ensemble de la région, ce qui enlèverait l'argument des Iraniens de dire pourquoi nous ne pouvons pas l'avoir alors que les autres les ont, mais il est clair que c'est difficilement applicable. Donc la question est de se dire que faire. Alors, certains mettent en avant l'option militaire. Moi, je veux quand même crier casse-cou. Parce qu'il ne faut pas, et on l'a vu, je m'excuse de le rappeler avec la guerre en Irak, il ne faut pas que le remède soit pire que la maladie qu'elle est censée guérir. Alors, que le régime de Saddam Hussein soit une dictature, je suis bien passé pour le savoir, j'y étais assez souvent, mais ce qu'on a aujourd'hui et les massacres que l'on voit et l'espèce de région de non-droit qui plonge dans le chaos, c'est certainement pas une option favorable.
Mais ce chaos, l'Iran jouerait peut-être un rôle aussi.
Ah, certainement. Mais alors justement, imaginons l'option militaire, il n'y a que deux puissances qui sont capables de la faire. C'est bien sûr les États-Unis, mais aussi Israël. Israël a les moyens, elle l'a montré en Irak avec la destruction du réacteur d'Osiris, qu'elle est capable de le faire. Bien.
Mais grâce à l'aide des Iraniens à l'époque. Hein,
oui, absolument.
Ils ont envoyé la photo de la centrale nucléaire.
C'était pas Khomeini, c'était le Shah d'Iran. Bon, aujourd'hui, mais examinons un peu froidement, faisons de la réelle politique, quelles seraient les conséquences au niveau mondial et géopolitique d'une attaque de ce type-là. Comme vous l'avez rappelé, voyons la position stratégique de l'Iran. C'est vrai qu'ils ont une armée qui n'est pas négligeable et c'est pas très difficile de bloquer le Droit d'Hormuz. Je vous rappelle que je suis capitaine de long cours, que j'ai travaillé pendant 7 ans sur les pétroliers. Je suis passé des dizaines et des dizaines de fois dans la région. C'est très facile, pour un pays qui n'est pas puissamment armé, de bloquer le détroit d'Hormuz. Et comme vous l'avez souligné, ça veut dire que toutes les productions, parce que l'immense production de l'Arabie Saoudite se trouve dans le Golfe d'Oman. Dans le golfe arabique, que d'ailleurs les personnes appellent le golfe pétrole. Voilà, vous voyez, je l'ai fait exprès,
Vous voulez nous provoquer.
Parce que les Arabes appellent ça le golfe arabique, et vous entendez ça, vous voyez comment
c'est
on les fait, c'est le golfe persique. Mm-hmm. Donc vous voyez, et je peux vous dire un truc, ce que j'ai vu au moment où...
ça a été un des enjeux de la guerre en Irak.
Absolument, mais quand à Saddam Hussein, avec l'aide et avec l'appui des Occidentaux, à attaquer l'Iran. Il pensait que ce serait une promenade militaire. Il est vrai qu'à l'époque, l'armée iranienne était décapitée.
Elle a bien résisté.
Non seulement elle a bien résisté.
Elle a envoyé tous ses enfants en première ligne.
C'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les stratèges qui s'imaginaient que l'armée iranienne allait s'écrouler, s'est trouvé confronté à un sursaut de nationalisme absolument incroyable qui a fait que cette armée, dont tous les généraux avaient été pratiquement massacrés, a résisté. Donc, ne sous-estimons pas la capacité de résistance d'un peuple qui va défendre son pays, parce que le nationalisme iranien, je le rappelle, c'est quelque chose d'important. Donc, mesurons bien les conséquences d'une décision de ce type-là, qui pourrait mettre non seulement la planète à feu et à sang, mais faire en sorte que toute l'économie mondiale soit perturbée pour des dizaines d'années.
Oui, à noir.
Oui, à noir, là, on fait dans le détail. D'abord, parce que José vient de nous provoquer sur le mot golfe arabique. Parce que le nom de José, pour moi, c'est plus facile de l'appeler Youssef, par exemple, parce que ça me plaît dire Youssef, mais je n'ai pas le droit. Historiquement, le nom de la région, c'est la Golfe Persique. Si un arabe il veut l'appeler autrement, il peut, mais n'a pas le droit.
Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une appellation qui serait arabo-persique? Le golfe arabo-persique.
Votre nom, c'est Sarah. Pourquoi je dois mettre à
jour encore autre chose? Mais imaginez, je vais me faire l'avocat du diable. Imaginez que vous avez un Irakien dans votre
groupe. J'aimerais bien vous appeler Sarah Ambar. Est-ce que ça va te plaire? Il n'y a pas de raison. Ton nom, c'est Sarah. Le nom de la
vérité. Vous voyez, c'est nationaliste.
Non, c'est pas national, c'est la vérité.
Bon, je crois qu'on ne va pas. Non, faut pas faire le tour de toute la question nucléaire. On va passer à un autre thème.
Les peuples iraniens, ils ne sont pacifistes. Ils ne veulent pas la guerre avec le monde entier, avec personne, ni avec l'Israël, parce que le peuple d'Israël aussi, c'est notre ami. Je ne vois pas pourquoi les Israéliens, ils ont peur d'Iran. Le peuple iranien a fait peur à personne.
Je voudrais à ce propos confirmer que,
à mon avis, il n'y aura jamais la guerre entre l'Iran et l'Américain dans la région.
Oui.
L'Amérique est déjà dans le problème en Irak. Il ne s'en sort pas. Donc, et le peuple iranien ne veulent pas faire la guerre avec personne.
Oui. Alors, je voudrais aussi, par rapport à ça, par rapport justement, vous dites que la population iranienne n'est pas anti-américaine, vous dites qu'ils ne veulent pas la guerre, parce que ici, dans un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes, qui est d'ailleurs une magnifique revue, dont le premier numéro au printemps 2006 vient d'être édité, on trouve notamment un article d'Antoine Sfer, Pour lui, dit-il, la société civile iranienne est largement acquise aux États-Unis. Vous êtes d'accord avec cette déclaration?
Mais vous voyez, le peuple iranien aime bien le peuple américain. On a dit maintes fois, nous n'avons aucun problème avec le peuple israélien, avec le peuple arabe, le peuple américain. Nous sommes des amis. Les Américains, ils ont aidé dans l'histoire au peuple iranien aussi, à l'époque de guerre et tout.
Donc on peut considérer que si Ahmadinejad veut déclarer la guerre aux États-Unis, personne n'ira la faire pour lui.
Mais je dois compléter parce que j'ai dit la moitié de... Comment
ah ouais.
Mais nous avons problème avec la politique de M. George Bush dans la région. Mm-hmm. Et j'espère que c'est lui qui va prendre le...
Bon, le problème avec Ahmadinejad est grand aussi. Avec la politique d'Ahmadinejad est grand. Hein, je ne veux pas défendre...
Ahmadinejad, c'est trop...
Alors, Michel Gross, qui est membre de notre collectif et qui vient d'arriver, voudrait intervenir.
Oui, je voulais poser une question à nos participants. C'est la suivante. C'est comment expliquez-vous l'obsession anti-israélienne et anti-juive, on peut le dire aussi, du président actuel? Et ne pensez-vous pas que ces menaces, donc les menaces qu'il a proférées à plusieurs reprises sur la destruction de l'État d'Israël, ne doivent pas être prises au sérieux? Est-ce qu'elles sont uniquement, comme certains le disent, à usage interne, pour un petit peu stimuler et motiver son peuple qui souffre, ou bien a-t-il vraiment une intention belliqueuse? Est-ce un véritable fou? Nous en avons vu d'autres dans l'histoire de l'humanité.
Mmh. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les propos d'Ahmadinejad avec ce que le peuple iranien pense des Juifs et d'Israël.
Propos scandaleux quand même, disons-le.
Évidemment, mais il reprend à cet égard exactement ce que Khomeini avait fait par rapport à Israël et par rapport aux Juifs. Il avait transformé cet État et les Juifs en bouc émissaire et il justifiait sa politique avec cela. C'était des propos démagogiques.
Je suis d'accord avec vous, madame, qu'il répète ce que Khomeini disait à l'époque, mais ici nous avons affaire à une conjonction dangereuse, à savoir un monsieur qui parle de détruire un autre pays, en même temps que ce pays est en train vraisemblablement de se doter d'une arme nucléaire. Donc c'est la conjonction des deux éléments qui est...
Ce qu'il dit est scandaleux. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est le problème est que, et ça a été dit, que le peuple iranien n'est d'abord pas très éclairé pour le moment avec toutes les restrictions par rapport à la presse et par rapport à toutes les restrictions de liberté qui existent, et donc est prêt à suivre des propos sans être vraiment informé. Mais ceci dit, historiquement, ce pays n'a pas été nécessairement le pays le plus anti-juif dans l'histoire de l'humanité. Au contraire. Et donc là, il y a quand même nécessité de dire que effectivement,
on parle aujourd'hui, hein, on ne parle pas dans le temps.
D'accord, mais ce président est dangereux, ce président a des propos scandaleux, mais ça n'est pas le reflet de toute la population.
Juste alors, une phrase avant qu'on passe au thème suivant.
Que aujourd'hui aussi, en Iran, surtout à Téhéran, nous vivons avec les peuples juifs iraniens. Il n'y a pas d'aucune différence entre...
Il paraît que sa situation s'est considérablement durcie depuis qu'Ahmadinejad est passé au pouvoir.
Au point de vue du régime, pas peuple iranien. Entre nous, nous avons des amis juifs ou nos juifs arméniens. Ça pose aucun problème.
Oui, mais enfin, vous savez bien que le mot sioniste, c'est quand même un mot un peu diabolisé.
Ils sont contre la démocratie. Ils sont contre les Iraniens, y compris les Juifs ou Arméniens.
Ce régime et que l'Occident doit une fois pour toutes avoir une politique cohérente,
avoir le courage de rompre avec ce régime.
Et on ne peut pas vouloir étendre ses intérêts économiques et parler des droits de l'homme dans ce pays. Et donc il faut être cohérent et l'Occident ne l'est pas non plus. Ahmadinejad et un petit peu faux, l'Occident n'est pas très cohérent non plus.
Non, mais la morale en politique, on sait très bien elle est souvent suspendue. Alors maintenant, je voudrais passer à notre dernier thème de l'émission, à savoir quelles sont les forces d'opposition contre ce régime. Est-ce qu'elles sont actives, clandestinement actives en Iran, à l'étranger? Alors nous avons en ligne un Iranien qui dirige un site internet qui s'appelle Iran Résiste, Alors vous faites iran-resiste, comme ça se prononce, sans R-E-S-I-T, R-E-S-I-S-T.org. Et son animateur, donc Kaveh Mohseni, voilà, va intervenir et expliquer en quoi lui, il mène une opposition contre le régime actuel de l'Iran. Kaveh Mohseni, bonjour. Bonsoir.
Oui, bonsoir Sarah, j'espère que vous allez bien.
Merci, ça va. Alors et vous?
Ah, ben, ça va.
Qu'est-ce que vous nous dites à propos de votre action politique?
C'est-à-dire que Iran Résiste, c'est d'abord un site d'info, parce que nous pensons que la meilleure manière d'analyser la situation, c'est d'avoir le maximum d'infos sur le régime iranien, l'actuel régime iranien. Pour ne pas être obnubilé par ce président qui vous paraît méchant, parce que celui qui avait avant, il paraissait pas méchant, mais en fait, c'était juste une histoire de packaging. Le régime était exactement le même, et d'ailleurs, vis-à-vis des Juifs, c'était encore plus dur que l'actuel président, parce que c'est durant la présidence du soi-disant réformateur qu'on a arrêté 13 Juifs en Iran, sous l'accusation d'être des espions, alors qu'il y en avait un qui était gardien de cimetière, l'autre qui était cordonnier, donc ils avaient accès à très peu d'informations classées secret défense.
Mm-hmm.
Donc notre but au départ, c'est de donner le maximum d'informations.
Quand vous dites notre but, vous parlez au nom de qui exactement?
Votre mouvement est important. Moi et mes collaborateurs.
C'est un mouvement important?
Ce n'est pas un mouvement, c'est un site, mais ça correspond, en fait, beaucoup d'informations circulent sur les sites iraniens et sur des sites qui sont en anglais sur l'Iran. Et en fait, sur l'ensemble des sites où on parle de l'Iran, les gens font du copier-coller de dépêches. Et on finit par répéter exactement la même chose. Et notre but, c'était d'apporter des analyses sur la situation pour que les Iraniens qui nous lisent et les Français qui nous lisent éventuellement sachent ce qui se passe en Iran, quel est l'état d'esprit des Iraniens.
Alors, est-ce que justement en Iran, il y a une opposition iranienne?
Oui, absolument. Je
et
pense
qui communique
que...
et dont vous avez, sur laquelle vous avez des informations, qui vous communique des informations sur la situation intérieure?
Absolument, nos informations viennent de l'intérieur et de...
par Internet.
Absolument, c'est par email, essentiellement.
Ce sont des jeunes, le plus souvent des jeunes qui vous écrivent?
Des jeunes ou
qui diffusent des messages.
Maximum 35 ans par là.
Ils ont des sites à eux ou bien ils envoient des mails pour informer?
Non, ils envoient des mails parce qu'en fait, les sites qui sont en Iran sont surveillés. En fait, une partie de notre travail, c'est de mettre en garde les intellectuels européens sur l'existence d'un réseau de faux opposants qui ont été
inventés. Qu'est-ce que vous appelez les faux opposants?
C'est-à-dire que le régime de Mollah a compris que les Iraniens étaient sensibles à ceux qui se battaient, étaient jetés en prison. Donc au bout d'un moment, il a commencé à jeter en prison de temps en temps ses propres... cerveau, les gens qui arrivent à écrire et s'exprimer pour créer la sensation que ces personnes pourraient être des opposants, mais en fait ces opposants-là, c'est les opposants officiels, il y en a un peu de toutes sortes, il y a des journalistes, dissidents, tout ce qu'on veut, ils ont de dissidents que le nom parce que on trouve rien dans leur écrit soit de nature à mettre en cause la politique du régime ou les exactions commises à l'encontre des femmes, des minorités, des jeunes. Et en fait, c'est une sorte de leurre. Et quand ces personnes sont emprisonnées, ça enflamme le cœur des intellectuels européens qui se battent pour les libérer et en fait ils concentrent leur énergie sur des gens qui n'ont aucune valeur alors que les vrais opposants ils sont arrêtés sans qu'on fasse du show médiatique.
Kaveh Mohseni, vous-même vous représentez quelle tendance d'opposition?
Moi je suis monarchiste. Mm-hmm. Je suis voulais vous dire une chose, c'est que la monarchie c'est être attaché à l'intégrité territoriale de l'Iran
Mais c'est quand même plaider, c'est quand même plaider le retour de la famille royale au pouvoir.
Absolument. Mais en fait, être monarchiste,
mais c'est les politiques
pas une partie politique.
C'est ça, vous voulez dire, c'est une, vous seriez pour une monarchie constitutionnelle comme ici en Belgique, par exemple.
Absolument, mais vous pouvez être monarchiste de gauche ou de droite, comme vous pouvez être républicain de gauche ou de droite.
Il ne s'agit pas de restaurer les privilèges de l'ancien régime, c'est ça que vous voulez dire.
Non, c'est-à-dire que, en fait, l'image que vous avez de l'ancien régime, c'est l'image qui est souvent donnée par les intellectuels de gauche iraniens. Et en fait,
ils ont souffert peut-être aussi sous cet ancien régime.
Oui, ouais, mais il ne faut quand même pas exagérer, monsieur Larsavac, ça existait, quoi. Il ne faut pas exagérer. Non, il ne faut pas.
À qui je parle, à l'instant.
Il faut présenter un. Ben, écoutez.
Excusez-moi, est-ce que... Allô?
Alors, c'est José Dubié qui est sénateur écolo et qui...
D'accord. Alors, est-ce que je peux dire un mot?
Oui, continuez. Voilà. On vous interrompt plus.
Non, c'est pas
mais on devra couper dans 3 minutes. Hein.
D'accord. C'est pour dire que vous avez raison de vous insurger contre une monarchie qui aurait beaucoup de privilèges. Mais en fait, la monarchie iranienne était complètement différente de l'image qu'on vous a donnée. Et juste pour dire que la gauche iranienne...
Monsieur,
a tout...
j'étais en prison des villes à l'époque du Shah. Je m'appelle Anwar Mirsatari en 1973.
Oui.
J'étais en prison des villes. Je vous écoute.
Voilà. La gauche iranienne a soutenu Khomeini. La gauche iranienne a trompé le peuple iranien. Il a soutenu Khomeini.
Que c'était peut-être une alliance tactique.
Oui, mais madame, 2 millions de personnes sont mortes quand même depuis. Mm-hmm. 1 million sur les fronts et beaucoup aussi dans les villes qui ont été bombardées. Et la gauche iranienne n'a jamais demandé pardon au peuple iranien d'avoir fait cette tactique. Si en France, un parti politique passe un accord avec le Front National, il doit s'excuser. Pourquoi la gauche iranienne serait différente?
Bon, Kaveh Monseigneur, on ne va pas s'énerver.
Est-ce que vous
pensez que la monarchie actuelle, ou en tout cas les descendants de la monarchie actuelle, a les moyens de gouverner l'Iran, à supposer que le peuple souhaite son retour. Est-ce que d'abord vous pensez que le peuple iranien souhaite son retour?
Je le pense, parce que le peuple iranien avait au niveau de travail, une sécurité de travail, et au niveau des droits des travailleurs, beaucoup de droits au niveau des travailleurs, au moment de cette monarchie qui était plutôt socialiste qu'autre chose. Alors le monsieur, ça le fait rigoler, mais moi je discute avec beaucoup d'Algériens et des Kabyles, et ils disent, nous on aimerait avoir un dirigeant comme votre chat qui était en faveur du peuple. Alors le problème avec cette monarchie, c'était que les gens de gauche étaient privés de leur privilège d'avoir le privilège du cœur. Alors, ils s'insurgeaient et n'ont jamais aidé aucun mouvement. Ils ont, en 63,
on a compris que pour vous, la monarchie est pleine de qualités. Et voilà, donc maintenant, nos amis ici vont réagir. Et voilà, on vous souhaite de toute façon bonne chance dans votre combat. Et votre site résiste.org est magnifique. Documenté, je pense que ça vaut évidemment la peine de s'y connecter pour savoir ce qui se passe en Iran. Oui, apparemment.
Juste veux dire, le jour où la gauche iranienne s'excuserait auprès du peuple iranien d'avoir allié Khomeini et fait rentrer ce démon sur l'Iran et le Moyen-Orient, on sera avancé d'un pas. Avant, il n'y a pas d'entente possible.
Très bien, merci monsieur.
Merci à vous.
Bon, on fait un dernier tour de table sur la question des forces d'opposition iraniennes, dont les monarchistes, dont on n'avait plus entendu parler depuis un moment, et après on devra se séparer. Alors,
je voudrais quand même vous dire, je sais qu'au moment où il y a eu la révolte contre le Shah d'Iran, j'ai été plusieurs fois là-bas, j'ai couvert ça pour la RTBF. J'ai vu des dizaines de milliers de gens dans les rues. C'était pas la gauche, c'était le peuple, c'était des gens qui en avaient marre, qui se sont révoltés, qui se sont affrontés à la garde impériale, qui tiraient dans le tas. Il y a eu des milliers de morts, c'est une réalité. Alors que ce monsieur vienne pas nous dire, c'était un régime social. J'ai parlé de la SAVAK. La SAVAK, c'était la Gestapo locale. Mon ami ici a été en prison parce qu'il était membre d'un parti de
l'Orient.
Alors il faut quand même remettre les choses en état. Alors quand on dit que c'est vrai qu'au début, pour se débarrasser du chat, c'est vrai qu'il y a eu une alliance tactique entre certains groupes, les Moudjahidines du
Bon, rappelons-nous que Michel Foucault disait, un grand philosophe français, Michel Foucault avait dit en 79, tout vaut mieux que le chat.
Bien sûr.
Non, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore dire que c'est vrai, que ça va, mais parce que ce chat, il est quand même parti sans que soit versé une seule goutte de sang. Hein. Il a pas voulu faire tirer sur le peuple.
Non,
hein.
Il y a eu des dizaines de milliers de morts.
Pas au moment de son abdication, pas dans son régime.
Mais bien sûr. C'est pour ça qu'il est parti.
Rappelez-vous, je voulais dire, si vous permettez, le temps de chat est passé. Il appartient à l'histoire. C'est l'historien.
Donc c'est fini. Le chat, c'est fini.
Le chat est fini.
Pour vous aussi, qui vous êtes.
Terminé, s'il vous plaît. Monarchie appartient au passé, donc c'est hors de
question. Et l'avenir, il est acquis alors. L'avenir est acquis.
Pour les gens qui luttent pour la démocratie en Iran, un multipartisme comme l'Europe, comment dire.
Un système parlementaire.
Parlementaire, pas monarchique.
Avec un président élu par le peuple.
On peut choisir encore une personne pour mes enfants, pour mes petits-enfants, c'est impossible. Nous luttons pour avoir le droit de choisir les gens qui nous voulons.
Firouzena Vandiva,
je crois qu'il faut arrêter de blâmer l'ancien régime pour expliquer le
nouveau
actuel, ou encenser le régime précédent. Il avait ses défauts, et il y en avait beaucoup. Il a aussi fait un certain nombre de choses. Je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais l'avenir de l'Iran, je ne crois pas qu'il soit dans la monarchie, quel que soit ce qu'on pense de cette monarchie. L'avenir de l'Iran est d'abord dans la laïcité. Il faut une fois pour toutes mettre fin à ce régime qui, au nom de la religion, justifie tout, et elle est dans la démocratie.
Alors, effectivement, voilà. Est-ce que justement, par rapport à ça, l'Iran est capable de composer avec les préceptes religieux? Parce que justement, moi, il y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre. Vous dites à un moment donné que quand Khomeini est arrivé au pouvoir, il a découragé le contrôle de naissance et il a fait plutôt voter une politique de natalité
au départ.
Et qu'ensuite, on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait une croissance démographique galopante et on est revenu à une politique de natalité plus contrôlée, ok, avec un taux de fécondité qui est actuellement aux alentours de 2,3, donc qui est celui presque du niveau européen. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même capables de composer avec la religion.
Écoutez, la religion est instrumentalisée comme on veut. Quand on veut l'utiliser pour dire que les Américains empêchent les musulmans de faire des enfants, on le justifie par la religion. Si on veut attaquer, on justifie par la religion. On justifie les changements par la religion. Donc, on peut l'utiliser comme on veut. Et c'est ça qu'a fait ce régime. Et c'est ça que font aussi beaucoup de pays musulmans. C'est utiliser la religion pour justifier l'une ou l'autre chose. Je ne suis pas en train de défendre la religion. Pour moi, il faut séparation et c'est tout.
Oui, alors, un dernier mot, parce que moi, je dois clôturer. Non, dans 3 minutes, on coupe l'émission. Et j'ai encore des choses à dire.
Une minute, la position actuelle de l'Iran.
Voilà, alors. Et ici en Belgique, qu'est-ce qu'on a comme...
Attends, d'abord on parle de l'Iran parce que la résistance existe. Il y a l'association des écrivains, les mouvements de femmes, les ouvriers, les syndicalistes qui sont en prison. Il y a les balouches, les arabes, les jeunes, les avocats, les kurdes et les étudiants qui résistent.
Alors, est-ce qu'ils sont regroupés dans des associations séparées? C'est des individus qui s'expriment, bien sûr, mais...
C'est pas autorisé. Ils font donc en clan.
Et il y a une organisation clandestine. Donc il y a bon espoir.
Bien sûr, ce sont notre espoir.
Josy Duguay, vous êtes d'accord avec cet espoir? On peut se fonder là-dessus.
Être opposant aujourd'hui en Iran, c'est être d'abord héroïque. Parce que l'on risque énormément, on risque sa vie.
Et alors justement,
malgré ça, il y a des gens qui s'y opposent.
Alors je voudrais embrayer sur le risque que courent les hommes courageux en Iran, les intellectuels, et notamment signaler qu'on dédie cette émission au philosophe iranien Jahan Beglou, qui était membre fondateur de la revue intellectuelle Goftegu, en iranien, c'est ce qui voulait dire dialogue, exactement, qui a organisé fin 2005 une série de séminaires sur la pensée française au XXe siècle à la Maison des Artistes de Téhéran, qui a été formé à la Sorbonne et à Harvard, et qui s'était positionné ouvertement contre la politique du nouveau gouvernement iranien, et suite à un article d'opinion qu'il avait publié dans un journal espagnol, El País, et donc, il vient d'être enfermé sur ordre d'Almanijad, ce qui fait dire à certains amis intellectuels, notamment Kadivar, que la règle de l'arbitraire règne en Iran. Et donc maintenant, on peut se demander si l'Union européenne va soutenir un petit groupe de députés qui souhaitent exclure l'Iran de la Coupe du Monde à l'image du... De l'Afrique du Sud qui avait été exclue de la Coupe du Monde de rugby et de cricket lorsqu'elle était en régime d'apartheid. Voilà, et donc je rappelle à nos amis les livres que nous avons cités, notamment de Firouzena Avandi, que je vous remercie d'ailleurs d'être là, Du développement à la globalisation, paru aux éditions Breuland, la revue Le meilleur des mondes, paru chez De Noël. Et alors, deux livres qui ont été publiés récemment par des membres du collectif, notamment par Viviane Teufelbaum, Hirsch, XL se raconte, aux éditions Luc Pire, et également par un membre de notre collectif, l'historienne Sylvie Losberg, L'histoire de Belgique à la collection Histoire en couleur. Voilà, vous êtes à l'écoute de l'émission Dialogue et Partage, produite par le collectif Dialogue et Partage. Sarah Brebar au micro, merci Josie Dubié, Anouar Mirsartari et Firouzé Nahavandi. À bientôt, au revoir.
Je vous le dis. Interdiction.